Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, 25 militaires condamnés hier à la peine de mort pour avoir fui les combats dans l'est du pays. Les rebelles du M23 qui ont pris la ville de Kanyabayonga il y a quelques jours continuent de progresser en face. L'armée peine à les repousser et certains éléments ont donc été accusés de prendre la fuite. La Banque mondiale annonce la suspension des décaissements auprès du Gabon. L'institution financière reproche à Libreville plusieurs mois d'arriérés de paiement de sa dette. Le gouvernement parle de problèmes techniques et assure qu'ils ont été réglés. Durement réprimée, l'opposition tunisienne s'interroge sur l'opportunité de participer à la présidentielle. Le président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs, a finalement annoncé en début de semaine que le scrutin aurait lieu le 6 octobre.
On en parle avec Michael Ayari, analyste principal à International Crisis Group. Il est l'invité d'Afrique Midi.
En République démocratique du Congo, 25 militaires ont donc été condamnés hier à la peine de mort. Alexandra Branjon, ils sont accusés d'avoir fui les combats entre le M23 et l'armée dans l'est du pays.
Oui, la justice militaire leur reproche d'avoir fui les combats qui se déroulent depuis le week-end dernier au nord de Kayabayonga, dans le territoire de Lubero. Le procès s'est d'ailleurs tenu dans le village de Alibongo, à quelques kilomètres seulement du front, une audience foraine. Au total, 31 prévenus, 27 militaires et 4 civils, des femmes de militaires. Ils étaient poursuivis pour fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et vol. À l'issue de l'audience, vous l'avez dit, 25 militaires, dont 2 capitaines, ont donc été condamnés à la peine de mort. Un capitaine a lui été condamné à 10 ans de prison pour vol. Rappelons que le gouvernement a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort il y a 3 mois. Avant cela, les condamnations à mort, si régulièrement prononcées par les tribunaux militaires pour trahison, étaient systématiquement commuées en prison à perpétuité. Hier, un porte-parole militaire du Nord Kivu s'est félicité de cette décision de justice qui, selon lui, va décourager les fuyards alors que l'armée peine à repousser les rebelles du M23.
Au Cameroun, une nouvelle salve du ministre de l'administration territoriale contre les opposants. Hier, devant les gouverneurs des 10 régions, Paul Atanganji s'en est pris, sans les nommer, à Maurice Kamto et à Cabral Libi. Amélie Tullet, alors que le Cameroun avance vers une année électorale en 2025, que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 42 ans, le ministre s'est ouvertement moqué des deux opposants.
À commencer par Maurice Kamto, le président du MRC, qui en mai devant la presse déclarait être prêt à mourir en 2025. Paul Atanganji lui suggère de ne pas attendre.
Il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. On n'a pas besoin d'attendre 2025.
Quant à Cabral Libi, dont la présidence du parti, le PCRN, est l'objet d'une bataille judiciaire, le ministre le compare à une nounou.
Vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va rendre dire que c'est déjà mon enfant?
Voilà, rire dans l'assistance, mais rien de drôle de la part d'un ministre dans un contexte préélectoral, selon Cabral Libi.
Il persiste dans une forme de bordélisation de la République du Cameroun par des intimidations, par des menaces. D'abord, démultiplie les stratagèmes pour éliminer des candidatures à l'élection présidentielle. Et puis, on l'a vu intervenir sur les instructions sur les listes électorales. Il intervient dans la vie des partis politiques. Mais si on le laisse faire, parce qu'il ne s'est pas nommé lui-même, il y a quelqu'un qui l'a nommé, ben c'est celui qui l'a nommé qui saura en tirer les conséquences.
Et du côté du MRC, Joseph-Emmanuel Atéba, secrétaire national à la communication, estime ses propos indignes d'un ministre. Ce n'est pas le Cameroun qui est humilié, dit-il, mais tout le système de Paul Biya qui est mis à nu.
Au Tchad, peu ou pas de réaction officielle après la révélation dans la presse française qu'une enquête préliminaire était ouverte à Paris contre le président Mahamat Idriss Déby. Elle porte cette enquête sur des dépenses de la présidence de 900 000 euros pour l'achat de costumes et autres vêtements de luxe. Depuis 2 jours, le palais se contente de renvoyer à la biographie du président Déby, qui assurait avoir reçu des costumes d'un ancien conseiller, mais que lui préfère porter des habits traditionnels. Mais en aparté, Strasdi Koumana, certains responsables tchadiens n'hésitent pas à pointer du doigt la France et s'interroge sur le timing de ces fuites dans les journaux.
Oui, Nicolas, comme vous le disiez, la présidence tchadienne se contente depuis 3 jours de reprendre les mêmes éléments de langage, je cite, « Nous espérons que cette enquête établira la vérité et dissipera l'intention de nuire à la réputation du président de la République du Tchad », a répété encore une fois un de ses conseillers en communication, Armand Ndjengoltar, avant de nous renvoyer à l'autobiographie de Mahamat Idriss Déby, dans laquelle il a qualifié cette affaire de symbole de la manipulation politique. Même si la présidence tchadienne se veut plutôt discrète à ce stade, la pilule passe mal dans son entourage immédiat où l'on pointe une cabale contre Mahamat Idriss Déby. C'est pour nous faire payer son voyage en Russie et la visite du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov au Tchad dernièrement, estime l'une de nos sources. Ces politiques, on cherche à l'humilier, cela aura des conséquences sur nos relations, a renchéri un autre responsable, en se demandant si la justice française n'avait, je cite encore, rien de mieux à faire que de s'occuper des habits de notre chef de l'État. Du côté de la société civile, le président de Tournons la page Tchad demande, lui, que cette enquête de la justice française aille jusqu'au bout. Il faut qu'elle nous dise clairement si c'est Mahamat Déby qui est responsable ou si c'est son entourage, a précisé Jacques Saram Garassal.
La Banque mondiale annonce la suspension des décaissements auprès du Gabon. L'institution financière reproche à Libreville plusieurs mois d'arriérés de paiement de sa dette. Le gouvernement gabonais, lui, parle de simples problèmes techniques qui auraient déjà été réglés, Yves-Laurent Goma.
L'information a été rendue publique dans une note écrite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a fuité ce mercredi sur les réseaux sociaux. Ousmane Diagana, qui avait séjourné début mai au Gabon où il avait rencontré les principaux dirigeants de la transition, dont le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le texte précise qu'au 30 juin dernier, le Gabon a accumulé des arriérés d'une valeur d'environ 10 milliards de francs CFA, d'où la suspension. Plusieurs projets en cours pourraient être pénalisés. Il s'agit entre autres des projets de modernisation des villes à travers la construction des routes en pavé, la formation des jeunes dans les métiers techniques ou encore le projet e-Gabon qui vise à numériser l'administration gabonaise. Dans un communiqué mercredi soir, le gouvernement a expliqué que le non-versement de ces arriérés est dû à des problèmes techniques. Le ministère des Comptes publics soutient que le trésor public gabonais a déjà procéder au paiement de ses arriérés. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Le gouvernement du Sénégal réaffirme ses ambitions en matière de souveraineté économique. Les sous-sols du pays recèlent une grande variété de minerais, de l'or, du phosphate, du fer. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement souhaitent renégocier certains contrats d'exploitation. Lors d'une prise de parole au sommet Mining on Top Africa qui se tient jusqu'à ce soir à Paris, le ministre des Mines et du Pétrole, Biram Souleye Diop, a pointé du doigt l'assujettissement des États africains aux pays qui exploitent leurs ressources, Alexis Bedu.
Un discours de rupture face notamment à des industriels français. Dans la course mondiale aux minerais, le Sénégal vendra au plus offrant, dit en substance Biram Souleye Diop.
Je ne voudrais pas aussi me limiter à l'Europe. Il faut aller tirer les bénéfices partout dans le monde et ne pas avoir des œillères pour dire « Europe, c'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt est en Arabie Saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas. »
Les pays africains producteurs de minerais doivent accélérer ensemble pour transformer sur place, dit le ministre. C'est une question de souveraineté.
Tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait pas de transfert de compétences. Est-ce que vous savez que la France connaît mieux le cadastre minier du Sénégal que le Sénégal? Pourtant, ils ont les données encore. Et ils ne l'ont pas partagé avec moi. C'est quelle générosité ça? La transformation, ça suppose aussi savoir qu'est-ce qu'il y a dans son territoire minier.
Le rééquilibrage via la renégociation de certains accords miniers est réaffirmé. Ce n'est pas sans risque, mais c'est loin d'être impossible pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.
À partir du moment où c'est l'État qui est souverain sur un certain nombre de ressources naturelles et c'est lui qui peut aussi causer des problèmes aux entreprises exploitantes, en règle générale, les entreprises, après avoir dit non, on ne va pas renégocier, viennent à la table des négociations et on renégocie.
Et face à la crainte des industriels, le ministre des Mines du Sénégal insiste sur un point, la stabilité politique de son pays.
L'opposition tunisienne à l'heure du dilemme, faut-il ou non participer à l'élection présidentielle? Mardi soir, le président Kais Saied a annoncé que le premier tour de cette élection aurait lieu le 6 octobre. Le doute planait car le chef de l'État élu il y a 5 ans s'est depuis arrogé les pleins pouvoirs. Mais alors que les principaux chefs de parti sont en prison, les formations politiques s'interrogent sur l'intérêt de participer au scrutin. Et certaines ont déjà la réponse, Mathieu Galtier.
Pour le Front du Salut National, c'est non. La principale coalition d'opposition, qui va des islamistes au centre-gauche, refuse de participer à un scrutin faussé, explique son président Ahmed Nejib Chebbi.
Le Front du Salut National a estimé que les conditions d'une compétition normale ne sont pas réunies. Le Front ne soutiendra aucune candidature, ni en son sein, ni en dehors, parce que c'est participer à un simulacre électoral.
À l'autre bout du spectre politique, le parti d'Estouriens Libres, où convergent de nombreux nostalgiques du régime de Ben Ali, pourrait être tenté par un coup d'éclat et présenter sa dirigeante, Habir Moussi, en prison depuis l'automne dernier. Le parti annoncera sa position vendredi. Pour le politologue Atem Nafti, une certitude, la campagne électorale ne sera pas impartiale.
Nous avons une instance électorale qui est aux ordres, nommée par le président de la République. Nous avons des médias aussi qui sont de plus en plus sous pression, un climat de terreur. Dans toutes ces conditions, je vois pas du tout comment on peut parler d'un scrutin serein dans lequel il y aurait un véritable débat public.
L'instance électorale doit détailler ce jeudi le déroulé de la campagne électorale. Mathieu Galtier, Tunis, RFI.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'analyse de Michael Ayari de l'International Crisis Group. Il est notre invité.
Afrique Midi sur RFI. À suivre aussi dans Afrique Midi, Nicolas, sur la crainte d'une marée noire au Bénin.
Oui, un navire transportant une importante quantité de gasoil s'est échoué sur une plage de Cotonou. Des opérations de pompage sont en cours. En Côte d'Ivoire, les autorités assurent que la fuite d'eau de la mine d'or d'Iti, à l'origine d'une pollution, a été maîtrisée. Et puis les sports du basket avec les derniers tournois de qualification pour les Jeux Olympiques. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce jeudi, au Niger, l'armée affirme avoir tué plus de 100 terroristes lors d'opérations aériennes et terrestres suite à une attaque djihadiste près du Burkina Faso. Le 25 juin dernier, 20 soldats d'une opération antiterroriste et un civil avaient été tués près du village de Tassia dans le département de Terra, dans l'ouest du Niger. Et puis au Congo-Brazzaville, le général Jean-François Ndenge a été démis de ses fonctions de commandant des forces de police. Il occupait ce poste depuis 26 ans. Il est remplacé par son adjoint, le général Obami Itoufis. La crainte d'une pollution majeure à Cotonou après qu'un navire transportant des tonnes de gasoil s'est échoué ce week-end sur l'une des plages de la métropole béninoise. Des opérations de pompage sont en cours et les autorités ont pris d'autres mesures, Jean-Luc Aplogan.
L'urgence est d'éviter toute pollution, a indiqué le préfet maritime. Le navire a échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur les côtes béninoises après avoir cassé son ancre. À son bord, plus de 200 000 litres de gasoil. Première mesure prise, le lancement des opérations de pompage, très laborieuses au début. Elles sont en cours et les autorités espèrent qu'elles se terminent au plus tard vendredi. Autre mesure, l'interdiction de la baignade. Des prélèvements d'eau ont été faits et sont en cours d'analyse selon le préfet maritime, le contre-amiral Maxime Aoyo.
Nous attendons les résultats pour statuer sur les risques potentiels pour les populations, pour les produits halieutiques. Les résultats de cette analyse-là sont très importants pour savoir s'il y a des mesures supplémentaires à prendre.
Les premiers jours, tout curieux qui approchait était accueilli par une forte odeur de gasoil. Elle s'est estompée aujourd'hui, selon lui. À propos du bateau, les premières auditions et enquêtes concluent qu'il est louche.
Les activités dans les eaux nigériennes étaient inconnues. Elles avaient été observées en mode obscur, c'est-à-dire menant des activités illicites.
Le capitaine du bateau aurait même menti sur son itinéraire. Tout l'équipage, 15 Nigériens et un Béninois, sont aux mains de la brigade criminelle. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
En Côte d'Ivoire, c'est la pollution d'un fleuve par les eaux de décantation d'une mine d'or d'Iti qui a suscité la plus vive inquiétude. Il y a 10 jours, 185 cas d'intoxication légère avaient été dénombrés, des riverains qui avaient consommé de l'eau ou du poisson pêché dans la rivière. Le ministre de l'Environnement assure que la source de la pollution a été maîtrisée par la société minière. Mais les populations restent inquiètes. À Abidjan, Bintadiagne.
Le village d'Ouyatouo est situé à 400 mètres de la mine d'or d'Iti. Le canal d'évacuation des eaux de pluie dans lequel des déchets miniers se sont écoulés longe cette localité. Dès qu'il a été informé de cet incident, le chef de canton, Célestin Bala, a rapidement sensibilisé les habitants.
J'ai appelé le griot pour alerter tout le village de ne pas boire de l'eau de marigot et de l'eau de pluie. Le lendemain, nous avons constaté les diarrhées, les vomissements. J'ai appelé la mine. Ils ont mis un plateau technique en marche.
Par mesure de prévention, la pêche a été suspendue, l'eau courante a été coupée. Les habitants se sont rabattus sur la pompe hydraulique du village. Mardi, deux citernes ont été envoyées pour approvisionner la localité. Mais les habitants restent partagés à l'image de Christophe Couimincent, le président des jeunes.
On s'inquiète beaucoup, ceux qui sont malades, ceux qui font la diarrhée.
Il faut dire qu'au moins c'est l'arrivée des deux citernes au village, ça nous soulage un peu, mais pas la totalité, parce que le village est tellement grand. Nous avons 7 quartiers ici, on peut nous aider à faire 7 fourrages au village, pourquoi pas un mini château.
La société Endeavor estime que l'incident a été circonscrit, selon ses mots, des mesures de nettoyage ayant été menées dans le périmètre du canal de dérivation, lit-on dans un communiqué. Mais les riverains de cette mine d'or attendent la publication des résultats des prélèvements effectués par le centre ivoirien anti-pollution pour être totalement soulagés. Bintadian Abidjan, RFI.
Les sports, du basket, la seule équipe masculine assurée de représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques et le Soudan du Sud. Et il reste 4 places à prendre, une pour chacun des 4 tournois de qualification olympique. Hier, le Cameroun n'est pas passé loin de battre le Monténégro. Courte défaite, 70-66. Rageant pour l'ailier Jordan Baeye, qui reconnaît avoir eu du mal à contenir la star Nikola Vucevic, le pilot monténégrin des Chicago Bulls.
C'était vraiment un match difficile. Nous étions bien préparés, mais le Monténégro a joué à un niveau très élevé. Nous avons tenté de défendre à 2 sur Vucevic, mais ça n'a pas suffi. Nous aurons un autre match demain et il faudra tout donner pour gagner. De toute façon, nous n'aurons pas le choix. Soit on gagne, soit on rentre à la maison.
Et le Cameroun affronte le Brésil à 16h temps universel à Riga en Lettonie. La Côte d'Ivoire a également perdu hier de 4 points. Les éléphants ont pourtant failli faire tomber la Lituanie, 6e du dernier mondial, défaite 97-93. Nacho Lescano, le sélectionneur espagnol des Ivoiriens, retient, lui, surtout la belle prestation de son équipe.
On a fait un très beau match, c'est le match qu'on voulait, c'est le match pour lequel on s'est préparé. On a commencé avec un bon état d'esprit, on a mis de l'énergie, de la concentration. Et je pense qu'on a gardé cet état d'esprit, cette énergie et cette concentration pendant tout le match. Tout le monde pensait peut-être qu'on allait sortir de notre match et que la Lituanie allait prendre l'avantage au score, mais on a mis nos paniers petit à petit et même si on est redescendu après les avoir menés au score, on a toujours gardé le moral jusqu'à la dernière minute. On a aussi fait un super effort et un excellent travail. Je ne peux donc que féliciter mes joueurs. Maintenant, on va se reposer et encore une fois se reconcentrer pour affronter le Mexique, dont l'effectif et le style de jeu sont complètement différents de ceux de la Lituanie.
Propos recueillis par Molamine Sissavané. Si la Côte d'Ivoire bat le Mexique ce soir à Porto Rico à 21h30 temps universel, elle rejoindra les demi-finales. Même chose pour l'Angola, opposée au Liban à 15h30 TU à Valence en Espagne. À 18h TU, mission périlleuse pour l'Égypte, obligée de battre la Grèce chez elle, au Pirée. Il est 14h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce jeudi 4 juillet 2024.
Un jour de vote au Royaume-Uni sur fond de crise économique et sociale. Dans un pays où les services publics sont très éprouvés, les conservateurs vont perdre leur majorité, ça c'est certain. Les seules incertitudes concernent le taux d'abstention et l'ampleur de la victoire des travaillistes. En France, les législatives, second tour, ce sera dimanche. Fin de campagne électorale, elle s'achève demain à minuit. Une campagne tendue, violente parfois. Plusieurs candidats ont fait l'objet d'agressions ces derniers jours. Une nouvelle montée de tension à la frontière nord d'Israël. Le Hezbollah dit avoir tiré plus de 200 roquettes et des drones explosifs. L'opération est présentée comme une réponse à la mort de l'un des commandants du mouvement libanais. Réunis au Kazakhstan pour un sommet régional, les présidents russes et chinois plaident pour un monde multipolaire face à la domination américaine. Et Vladimir Poutine doit évoquer tout à l'heure la création d'un nouveau système de sécurité dans la zone eurasiatique. Et puis l'Union européenne impose une taxe supplémentaire pour les voitures électriques chinoises, près de 50% de droits de douane en plus. Le doute planait sur l'organisation même du scrutin. Une élection présidentielle aura bien lieu en Tunisie le 6 octobre. C'est le chef de l'État, Kaïs Sayed, qui l'a dit. Michael Ayari, analyste principal pour la Tunisie et l'Algérie à l'International Crisis Group, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Mickaël Ayari.
Bonjour.
Kais Saied a été élu en 2019 pour 5 ans, mais depuis il a changé la constitution et le doute planait sur son intention d'organiser une présidentielle cette année. Pourquoi a-t-il pris cette décision ?
Ben oui, tout à fait, le doute planait. Plusieurs analystes pensaient qu'il n'allait pas les organiser pour la simple et bonne raison que des conseillers lui auraient dit qu'il n'était pas sûr de la remporter haut la main, notamment au premier tour. Et il y avait une ambiguïté au niveau constitutionnel, c'est-à-dire que le mandat est de 5 ans, mais à partir du moment où il y a une nouvelle constitution, certains juristes pourraient considérer qu'on remettait le compteur à zéro et dans ce cas-là, il y aurait eu des élections à peine en 2027. Finalement, ça s'est avéré faux. Il a respecté donc certains formalismes, on va dire, hein, constitutionnels ou plutôt, je dirais, politiques, parce que c'est 5 ans après sa victoire donc, du 13 octobre 2019 qui rempile pour briguer un nouveau mandat et pour bénéficier d'une nouvelle légitimité.
Il y a quand même une question. Hein, Kais Saied, à l'heure actuelle, n'a pas dit formellement qu'il se représentait. Pour vous, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va se représenter ?
Oui, c'est à peu près clair. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations. Enfin, généralement, dans les régimes autoritaires, enfin, c'est le cas. Déjà, c'est très, très rare. Je dirais même de l'exception, même au niveau historique, que des autocrates ne se présentent pas et laissent la place à d'autres. Puis, il y a des déclarations. Vous savez, il parle beaucoup. Il fait des réunions avec des ministres. Il les invective, il parle, il fait des monologues. Donc, souvent, il y a une parole publique qui est cohérente, hein, parce que c'est à peu près toujours la même chose qu'il dit. Et il a dit clairement qu'il ne laisserait pas la Tunisie aux mains de traîtres, aux mains de vendus, aux mains de non-patriotes. Et tout le monde sait qu'il se considère comme une forme de, je dirais, messie, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la volonté populaire, hein, et qui est propre, intègre, et qui veut le bien de son pays, et que sans lui, le pays partira à la dérive. Hein.
Les principaux opposants sont emprisonnés. On sait que leur parti s'interroge hein, sur l'opportunité de participer ou pas à cette présidentielle. L'une ou l'autre de ces formations politiques d'opposition a-t-elle des chances dans ce scrutin ?
Ben déjà, les choses en ce moment, dans l'après-midi, sont en train de se dénouer parce qu'il y a une réunion donc de l'ISI. L'ISI, c'est l'institution, l'instance, hein, l'administration qui est chargée d'organiser les élections. Et donc, ses membres sont en train de se réunir, apparemment avec des représentants du ministère de l'Intérieur, pour réfléchir à une nouvelle loi électorale, ou disons un nouveau décret-loi, c'est-à-dire pour amender les conditions de candidature. Jusqu'à présent, il y a une loi électorale qui date de 2014, qui est assez ouverte, et il y a des conditions de candidature à la présidence qui sont spécifiés dans la Constitution de 2022. Et tout le monde s'attend à ce que ça soit de nouvelles restrictions pour éliminer le reste des candidats, en fait. Parce qu'il en reste quelques-uns, disons, des candidats sérieux, hein, on est d'accord, c'est-à-dire des figures publiques qui peuvent avoir une chance. Et évidemment, l'opposition, donc que ça soit le Front du Salut, hein, qui est une coalition donc mêlant islamiste et une partie de l'extrême-gauche, ou d'autres, comme le Parti d'Estourien Libre, c'est une opposition beaucoup plus
proche de l'ancien régime Ben Ali.
Voilà, c'est ça, voilà, qui se revendique nationaliste. Bon, essayons de présenter, voilà, essayons de présenter, sans évidemment que leurs candidats soient des lièvres, mais à mon avis, il n'y aura pas de boycott massif, parce que jusqu'à présent, tous les plébiscites et les rendez-vous électoraux depuis 2021 ont été boycottés par l'opposition.
On dit que les oppositions en Tunisie sont inconciliables entre les islamistes, les nostalgiques du régime Ben Ali et les démocrates. Y a-t-il la possibilité d'un effort d'union, voire d'une union, avant un premier tour ou à l'occasion d'un éventuel second tour ?
Il y a déjà une petite union hein, à travers ce Front du Salut, dont on a quand même quelques partis très différents, hein, qui renvoient à une forme de transition dans les années 2000, de dialogue entre la gauche, enfin, l'extrême gauche et les islamistes. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas une union totale. Quoi. Disons qu'il n'y a pas de candidature unitaire. Disons qu'on est toujours hein, dans des querelles classiques, des divergences idéologiques, des problèmes historiques qui n'ont pas été réglés. On est dans une défaite, en fait, de l'opposition. Hein, et l'opposition est à la fois muselée d'un côté, à la fois sonnée. Une grande partie ne comprend pas ce qui s'est passé, hein, comment le pays a pu en arriver là. Mais évidemment, tout dépend du candidat et des tractations qu'il peut y avoir. Mais parti comme c'est, il y a peu de chances qu'une candidature unitaire de l'opposition avec un programme clair présenté en face du président soit possible. Je pense que le régime ne laissera pas faire ça.
Mickaël Ayari, la crise économique est forte en Tunisie. Kais Saied bénéficie-t-il toujours du soutien de la population ?
C'est assez intriguant. Pour nous, politologues, sociologues, nous, on pense inconsciemment, hein, souvent, hein, c'est une espèce de réflexe de pensée, que plus la situation économique se détériore et plus, disons, les oppositions grandissent, le mécontentement grandit. Ben, en fait, ce n'est pas le cas par rapport aux échos qu'on a en Tunisie, hein, les gens sur place, les interlocuteurs. Il n'y a pas de défiance généralisée à l'égard du président et de sa politique. politique. On a évidemment des mécontents. Et la question qui se pose, justement, pourquoi ces élections sont importantes, c'est qu'une partie de la légitimité du chef de l'État est liée au score électoral important qu'il a fait en 2019. C'est-à-dire qu'il était au deuxième tour et par un concours de circonstances, il a réussi à faire à peu près, je crois, 71-73%. Et évidemment, s'il a moins, qu'il est obligé d'aller en ballotage et qu'il se retrouve avec, je ne sais pas, quelque chose comme 55-58, ça va lui enlever une partie de sa légitimité. Parce qu'il n'a pas une légitimité non plus révolutionnaire, je veux dire, ce n'est pas un chef de mouvement de libération nationale, ni rien, il n'a pas de légitimité ni religieuse, la Tunisie n'est pas une monarchie, ni de légitimité traditionnelle. Donc, elle est basée sur ce score-là. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait un score maximal qui passerait. Et là, évidemment, tout va se jouer sur la question de la participation. Et d'ailleurs, s'il était sûr de l'emporter facilement, tout ça ne se passerait pas. Parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent prêter à sourire vu de l'étranger. Enfin, on a par exemple des candidats qui annoncent leur candidature et le lendemain, ils sont convoqués par la justice, où certains sont arrêtés. Ben, on a tous les candidats crédibles, ou du moins ceux qui ont été cités à un moment donné par des institutions de sondage, hein, que depuis 2014, qui s'est présenté à la présidentielle, ou avait fait montre de leur intention de se présenter, ben, sont soit en exil, soit en prison. Soit ils ont des affaires comme une épée de Damoclès dessus que le pouvoir, disons, actualise au moment opportun.
Merci Mickaël Ayari. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et on part à présent à Madagascar où le président Radzoel inaugure aujourd'hui le tout premier bloc opératoire de chirurgie pédiatrique cardiaque du pays. Au Sénessou, l'hôpital militaire d'Antananarive, un projet de longue haleine porté depuis 2018 par l'ONG française de la chaîne de l'espoir. Objectif, permettre aux enfants atteints de cardiopathie d'être opérés sur la grande île par des médecins malgaches et ne plus laisser leur chance de survie dépendre d'une évacuation à l'étranger. Fin mai, 4 enfants déjà ont été opérés à cœur ouvert par une équipe médicale franco-malgache dans ce bloc flambant neuf. Une grande première à laquelle notre correspondante Sarah Teto avait pu assister.
Au bloc, cela fait déjà 5 heures que les 19 soignants s'affairent autour de Finoun, 8 ans. Chirurgien, anesthésiste, infirmier ou cardiopédiatre comme le docteur Dany Ravoive, médecin au Sénessou. Sous l'œil de son tuteur, un cardiopédiatre bénévole du CHU de La Réunion, Dr Dany effectue l'échographie transœsophagienne, une compétence acquise grâce aux nombreuses missions de compagnonnage effectuées ces dernières années à l'étranger et organisées par la chaîne de l'espoir.
C'est historique parce que ça fait très longtemps qu'on a attendu ces moments, la construction du bloc, les matériels qui sont arrivés, qui sont très très onéreux, et le fait de pouvoir opérer la première fois à cœur ouvert les enfants ici, c'est un grand événement.
Finoun, atteint d'une malformation cardiaque nécessitant obligatoirement une opération à cœur ouvert, était sur liste d'attente depuis plus de 4 ans pour partir se faire soigner en France. À son réveil, le petit garçon, encore incrédule, murmure.
Je vais bientôt pouvoir rejouer au foot. Je suis content d'avoir été opéré et surtout heureux de ne pas avoir été envoyé à l'étranger. J'avais peur de cette option-là parce que je savais que ça voulait dire que je partirais seul sans mon papa et ma maman.
Un vrai espoir pour les quelques 150 enfants malagas en attente d'opération. Mais l'aventure est loin d'être achevée. Il faudra compter au minimum 5 années de formation régulière et de missions opératoires étrangères avant que le personnel de l'hôpital puisse réaliser en totale autonomie ses opérations à cœur ouvert sur la grande île. Sarah Deto, Antananarivo, RFI.
Et c'est à Antananarivo que s'achève cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves, Mehdi Sadaoui et Yasmine Boulan. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Dans une minute, vous retrouvez Anne Cantner pour le journal de Haïti et des Amériques.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire et c'est à Abidjan que nous allons à la rencontre de garçons, de jeunes activistes impliqués dans la communauté. Ensemble, ils s'engagent, ils font bouger les choses pour la promotion de la santé et pour la défense des droits des femmes.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
À l'heure où l'immigration occupe le cœur du débat public, nous écoutons deux écrivains d'Afrique du Nord raconter les vies et les morts de ceux qui risquent tout pour traverser la Méditerranée, Le Tunisien Walid Amri et le Marocain Khalid Liamlahi sont nos invités.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.